Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Bac FM 106.1. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Nadia Sologoub, sénatrice de la Nièvre depuis 2017. Bonjour Madame la sénatrice.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la Covid-19 et de sa gestion. Pourriez-vous nous expliquer plus précisément comment fonctionne et en quoi consiste cette commission? Quel est son but?
Alors, donc moi, je dois dire que c'est un petit peu particulier. J'ai rejoint cette commission d'enquête en cours de route. Bon, alors, le Sénat peut déclencher des prérogatives, si vous voulez. Le Sénat a, dans ses missions et ses prérogatives, de faire la loi et également d'exercer sur le gouvernement des missions de contrôle. Donc, le cas échéant peut déclencher, avec l'accord du président du Sénat, une commission d'enquête, mais qui a vraiment une valeur forte, puisque les gens déclarent sous serment. Pour ceux qui ont suivi l'affaire Benalla, de même, une commission d'enquête, donc sans empiéter sur le travail de la justice, mais c'est vraiment une mission de contrôle sur le travail du gouvernement. Donc c'est vraiment une prérogative qui est très importante. À vrai dire, on n'est pas là du tout pour embêter le gouvernement, donc on déclenche pas ça pour des choses qui sont légères ou le tout venant, etc. Au contraire, bien souvent, nous travaillons ensemble. Mais quand nous avons l'impression d'un dysfonctionnement, alors à ce moment-là, on déclenche cette commission d'enquête qui a une valeur forte, puisque donc les déclarations sont faites sous serment, et si les personnes qui sont auditionnées mentent lors de la commission d'enquête, elles peuvent être poursuivies. Voilà, donc en ce qui concerne la crise sanitaire qui a eu lieu, beaucoup de choses ont circulé, des gens qui avaient des impressions de choses qui avaient pu dysfonctionner, et le Sénat s'est dit qu'il pouvait être important de déclencher une commission d'enquête pour faire la lumière, voilà. C'était vraiment l'idée, c'était d'éclairer sur les rôles, les éventuels dysfonctionnements et y compris également d'être force de proposition. Donc quand, dans les premiers travaux de cette commission d'enquête, je ne faisais pas partie parce que les places étaient comptées. Et puis il y a eu des élections sénatoriales avec un renouvellement au mois de septembre, certaines places qui se sont entre guillemets libérées. Et on m'a proposé de rejoindre les travaux au mois de septembre. Voilà, donc c'était très intéressant, donc j'ai bien évidemment accepté.
Cette crise aura révélé de nombreuses défaillances dans le fonctionnement du système de santé français. Vous qui avez longuement étudié l'ensemble des questions liées à la gestion de l'épidémie, qu'est-ce qui a failli?
Alors, en même temps, je dois dire quand même en préambule que personne n'était préparé à une crise d'une telle ampleur. Hein. Voilà, on n'est pas là non plus pour enfoncer et jeter la pierre de façon inutile et stupide. Il y a eu plusieurs maillons faibles. Il y a eu plusieurs maillons faibles sur lesquels on peut travailler. Vous voyez, des choses, on a l'impression d'être préparé à tout. Et en fait, nous, c'était un plan de pandémie grippe. Mais quelque part, comme c'était pas la grippe, on l'a pas déclenché. Voilà, donc on s'est rendu compte qu'on n'était peut-être pas préparé à quelque chose, une pandémie lambda. Alors déjà, ça, il faudrait être mieux préparé en amont. Après, tout le monde l'a su, on n'avait pas le matériel, on a eu un énorme problème de matériel, donc ça, il faut y travailler. Et puis, malheureusement, l'enquête a révélé qu'il y a des personnes qui ont fait des erreurs, des mauvais choix. Après, des articulations qui se sont mal faites, on peut être soumis à des nouvelles pandémies et on peut-être pas être obligé de paralyser tout le pays devant une autre catastrophe sanitaire. Voilà, il y a beaucoup de choses, à vrai dire, il y a plusieurs choses qui ont failli, voilà.
Vous parliez du défaut de matériel. Lors de la première vague, la France a souffert d'une pénurie de masques chirurgicaux. Alors qu'elle en disposait de plus de 750 millions d'unités fin 2017, le stock stratégique de masques n'était plus que de 100 millions d'unités à la fin 2019. Qui sont les responsables de cette pénurie et comment l'expliquer?
Alors écoutez, vraiment bravo, parce que vous avez très bien travaillé et très bien préparé cet entretien. Je vois que vous êtes allé voir. Oui, en effet, très rapidement, on a constaté qu'il y a eu une fonte coupable de ce stock, alors que parallèlement à ça, il y avait bien Santé Publique France qui avait émis des recommandations disant que le stock stratégique de masques pour assurer la sécurité des Français, donc en amont, hein, était de voilà, il faut que chaque famille dispose d'un stock pour faire face dans les premiers jours, enfin voilà, pour fonctionner de façon normale. Donc Santé publique France recommande un stock de 1 milliard. Et on se retrouve avec un stock qui a fondu en dessous du minimum requis, bien en dessous. Et en effet, ben, en cherchant, on se rend compte que le professeur Salomon a pris la décision, alors probablement croyant bien faire, hein, il n'a pas voulu assassiner quiconque, mais il a pris sur lui. Il a pris sur lui de ne pas renouveler le stock qui arrivait à date de péremption. Et ça, c'est apparu très clairement dans le rapport, et je pense qu'il doit s'en expliquer.
Donc, pour vous, c'est Jérôme Salomon qui porte la grande majorité de la responsabilité dans ce défaut de matériel ?
C'est pas pour moi. Ce que je veux dire, c'est que non, il n'y a aucun sujet à interprétation ou à analyse. C'est très clair. Après, le seul petit point de discussion, c'est de savoir sur quoi il s'est appuyé pour prendre cette décision, mais il a pris cette décision. Ça, c'est absolument incontestable. Alors, il dit qu'il a transmis lui-même des mails qui en attestent, etc. Enfin, il était devant une commission d'enquête. De toute manière, il n'avait pas lieu de dissimuler quoi que ce soit. Donc, en effet, il a pris cette décision. Bon, si vous voulez, le seul élément que je vois, c'est qu'on est dans un contexte budgétaire tel que, évidemment, on est constamment en train de rechercher des pistes d'économie de tous les côtés. Donc, mais là, le choix des économies a été très malheureux parce que, voilà, il a pris une décision coupable et la ministre de la Santé n'en était pas informée.
Justement, à propos de l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dans l'entretien que vous avez accordé au Journal du Centre il y a quelques jours, vous dites qu'Agnès Buzyn fait ce qu'il fallait au début de l'épidémie, alors qu'elle était ministre de la Santé, mais n'est-elle pas toutefois en partie responsable dans la mesure où elle a quitté ses fonctions de ministre pour s'engager dans la campagne municipale de la mairie de Paris, alors même qu'elle était consciente de la gravité de la crise qui se dessinait ?
Alors, sur le fait, d'ailleurs, on a auditionné l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, et ma collègue Sylvie Vermeillet, sénatrice du Jura, qui était rapporteure, dans les questions qu'elle a posées au Premier ministre, a dit pourquoi ne pas avoir gardé Agnès Buzyn. Donc ça, sur ce pourquoi-là, le pourquoi de son départ, j'avoue que c'était une décision politique qu'on n'a pas creusée. Par contre, une chose est certaine, c'est que là, vous voyez, j'avais préparé aussi, moi, notre entretien, et je ne sais pas si vous êtes allé voir cette page dans le rapport qui est très éclairante, où on a la chronologie avec les dates, et moi, je vois le 14 janvier. Le ministre de la Santé diffuse le premier message d'alerte sanitaire aux établissements de santé et médico-sociaux ainsi qu'un signal DGS urgent à plus de 800 000 professionnels de santé libéraux. Et elle a eu une forme d'intuition en disant il arrive quelque chose de très grave. Elle a y compris demandé des réunions de comités interministériels de crise qui ne se sont pas réunis. Elle a demandé des réunions de comités européens de crise qui n'ont pas eu lieu. Le 12 février, Madame Buzyn confirme son refus d'envoyer des équipements de protection individuelle en Chine. Elle a vraiment eu une clairvoyance, on est obligé de lui reconnaître. Moi, si vous voulez, je suis ni pour Madame Buzyn ni pour Monsieur Salomon, mais ce qui a été très intéressant dans cette commission d'enquête, c'est que l'objectif, c'était de faire la lumière, d'établir des faits, de poser des choses, de les écrire, c'est pour ça que le rapport est très épais, de façon tout à fait dépassionnée, c'était juste pour retracer, comme il est dit dans le rapport, le chaînage des responsabilités, d'identifier les causes et d'essayer d'y travailler pour l'avenir. Donc nous, on voulait vraiment faire le procès de personnes, à la limite d'ailleurs les noms comptent peu dans ce que nous disons, mais certaines personnes ont une forme de clairvoyance et d'autres ont fait des choix malheureux. Voilà. Bon. Mais Madame Buzyn, oui, elle avait vraiment eu une forme de clairvoyance et à part, c'est bien dommage qu'elle soit partie, mais sinon, on n'a vraiment rien à lui reprocher dans cette affaire.
Et si Madame Buzyn était assez clairvoyante et a prévenu rapidement, pourquoi n'a-t-elle pas été écoutée ?
Alors là, je ne sais pas. Voilà, je pense que on a eu y compris des messages, nous on l'a tous su et c'est là-dessus qu'il faut travailler parce que la communication en temps de crise, c'est un vrai sujet. Donc, on peut imaginer que le choix a été fait de ne pas affoler la population. Voilà. Ça fait partie des sujets qui ont été très travaillés. Est-ce que tous les soirs à la télévision, donner le nombre de morts, c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on communique en temps de crise? Pour à la fois dire aux gens, faites attention, c'est une épidémie extrêmement contagieuse, mais à la fois ne pas paralyser l'économie, voilà, c'est quelque chose de subtil, des choix ont été faits, y compris des choix parfois rassurants, alors qu'il n'y avait pas lieu de rassurer les gens, et d'ailleurs je pense que c'est là qu'on a perdu la confiance des Français, avec cette communication qui partait complètement dans un sens, puis qui repartait dans l'autre, il n'y avait pas de ligne directrice, et puis après, les gens perdent confiance, parce que quand on vous diffuse des messages qui sont contradictoires et qui sont parfois rassurants, alors qu'il fallait pas, évidemment, on perd la confiance des Français. Hein.
Sur la question des tests, la France a mis longtemps avant de pouvoir tester de manière conséquente par rapport à certains de ses voisins, comme l'Allemagne, par exemple.
Oui.
Depuis plusieurs mois, l'exécutif martèle la stratégie tester, tracer, isoler. Cette stratégie a-t-elle été efficace jusqu'à maintenant?
Alors, en ce qui concerne les tests, vous voyez, ça fait vraiment partie des pistes d'amélioration, parce que c'est vrai qu'on a du mal à se mettre en place pour les tests. Je pense que maintenant, pour les tests, on a quand même, vous voyez, des articulations idiotes. Hein. Les vétérinaires proposaient, les laboratoires vétérinaires, de tester beaucoup plus rapidement, mais il y avait des frontières administratives qui disaient qu'on peut pas faire des tests à des humains par des laboratoires vétérinaires, alors que les laboratoires départementaux auraient pu être opérationnels beaucoup plus rapidement. Là, on s'est pris les pieds dans le tapis, on a perdu du temps. Sur le traçage, je pense que on pourrait être meilleur, ça a pas tellement bien marché. La fameuse application Stop Covid révèle quand même des failles et des lacunes. Moi, je suis alertée par des gens qui me disent ça fonctionne pas si bien, des gens qui n'ont pas tellement envie de l'utiliser, donc le traçage fonctionne pas très bien. Et après, isoler, il faut en avoir les possibilités matériellement. Donc je pense que dans la Nièvre, ça, on a bien travaillé à pouvoir isoler les gens. Après, c'est aussi une question de citoyenneté, hein, parce qu'il y a des gens qui disent « je suis malade, ben, je vais revenir m'isoler dans ma famille, donc on contamine toute la famille ». Voilà. En même temps, c'est pas rigolo d'être malade tout seul dans un hôtel, ça c'est certain. Mais voilà, là c'est après c'est la responsabilité individuelle, hein, le fait de s'isoler.
Donc de ce que vous avez constaté, la politique d'isolement, l'échec ne revient pas plutôt de l'État, mais plutôt de la responsabilité de chacun.
Alors là, ça dépend peut-être des territoires. Je peux peut-être pas juger au niveau national sur l'isolement. Je pense quand même qu'il y a une forme de responsabilité individuelle. Hein. Moi, j'ai vu autour de moi des gens qui disent, je suis malade, je rentre m'isoler dans ma famille. On a dit que c'est des gens qui sciemment risquent de contaminer toute leur famille. Bon, après, on n'a pas forcément les moyens matériels non plus de s'isoler. Au niveau national, on n'est pas préparé à ça non plus. Techniquement, c'est pas évident hein, de la mettre en place. Je sais qu'au niveau du département, parce qu'on avait des cellules de crise toutes les semaines, la préfecture y a travaillé à réquisitionner des hôtels pour isoler les gens. Hein.
Nous allons maintenant marquer une courte pause musicale. On poursuit cet entretien. On se retrouve juste après Are You Mine d'Arctic Monkeys.
Merci. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches, to come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. Are you
a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, alright. Wanna hear her say, is that you mine?
Et nous nous retrouvons donc sur BAC FM 106.1. Si vous nous rejoignez, nous recevons aujourd'hui Nadia Sologoub, sénatrice de la Nièvre depuis 2017, dans le cadre d'une émission consacrée à la gestion de l'épidémie de la Covid-19. Alors, Madame la sénatrice, nous disions juste avant que la communication des responsables politiques et des scientifiques s'était trouvée être peu efficace depuis le début de l'épidémie, et cette défaillance était à l'origine d'une véritable crise de confiance entre l'exécutif et les Français. Pensez-vous que l'on puisse retrouver cette confiance perdue aujourd'hui ?
Alors là, j'espère évidemment qu'on puisse retrouver cette confiance, parce que si on veut travailler à être meilleur, voilà, après on ne sait pas la forme des nouvelles épreuves qui nous seront envoyées. Donc il faut absolument qu'on arrive à être en confiance pour lutter ensemble. Par contre, vous faites un constat, oui, qui est indéniable. On a perdu la confiance des Français, ça c'est certain. Et ça laisse après la place à toutes les informations les plus farfelues qui circulent dans tous les sens. Oui, ça c'est vraiment une chose à laquelle il faut travailler. Moi j'espère, vous voyez, qu'une commission d'enquête de cette nature, qui est vraiment factuelle, précise, on a des listes de dates, on essaye de faire la lumière uniquement avec des éléments qui sont tous précis et absolument validés, c'est la preuve que peut-être on peut faire ce travail, poser les choses, les mettre à plat, et puis c'est l'intérêt de ces commissions d'enquête qui nous permettent de dire voilà exactement ce qui s'est passé, qui a fait quoi, et on repart en étant dans l'obligation d'être meilleur.
Alors, pensez-vous que Santé publique France et les agences régionales de santé étaient suffisamment armées pour lutter efficacement, contre ce virus ?
Non, alors personne n'était armé suffisamment, personne n'était préparé. Ça, c'est vrai qu'il faut absolument qu'on soit meilleur. Bon, on a beaucoup dit dans les temps qui ont suivi, on a beaucoup tapé sur les agences régionales de santé. Je crois que d'une région à l'autre, elles ont été avec des modes de travail qui ont été totalement différents, donc selon les secteurs. Enfin, c'est un peu trop facile de leur faire porter la pierre et la responsabilité. Oui, il vaut mieux les armer. En fait, c'est ça, il faut qu'on soit armé avec des bras opérationnels, voilà, qu'on dise pas « Ah, c'est une pandémie, mais c'est pas la grippe, du coup, on active pas le plan... pandémie, voilà. Il faut, d'ailleurs, dans les préconisations, il est recommandé de créer une fonction, surtout de délégué interministériel, à la préparation et à la réponse aux urgences sanitaires, qu'on appellerait DIPRUS, placé auprès du Premier ministre et chargé de coordonner une réflexion et une vigilance interministérielle permanente sur l'état de préparation du pays aux crises sanitaires et d'en rendre compte tous les ans au Parlement. On disait lors d'une discussion, quand le rapport était terminé, qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Alors, est-ce que ça peut être une autre pandémie, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, des propagations qui se fassent par les insectes. Nous avons un vétérinaire dans l'équipe qui nous dit, mais la prochaine crise peut venir d'une propagation par les insectes. Auquel cas, c'est pas de masques que nous aurons besoin. Voilà, alors, ce sera d'autres outils. Donc il faut être prêt à tout, en fait.
Alors, vous parliez justement de DIPRUS. Votre commission d'enquête a formulé de nombreuses propositions afin de lutter plus efficacement contre l'épidémie et renforcer l'efficacité des futures politiques publiques en matière de santé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en détail quelles sont les principales mesures ?
Oui. Alors, Donc, y a des mesures, bon voilà, déjà, en imaginant qu'on soit dans une configuration encore d'épidémie, que cette histoire de masque, on se pose plus la question, il faut un stock minimal, voilà, il faut l'avoir, point à la ligne, parce que quand on les achète, quand c'est la crise, on les achète pas le même prix, ça nous a coûté une fortune. Bon, après, que ces stocks stratégiques soient validés par le ministre de la Santé, et que voilà, on se retrouve pas avec des décisions qui sont prises à un autre niveau. Le ministre de la Santé est au courant et pilote les choses. Après, il faut aussi imaginer, parce que on a eu beaucoup de dégâts collatéraux, parce que pendant la crise, on déprogramme tout le reste, on ne soigne plus que le Covid, et il y a eu des dégâts collatéraux sur des gens qui attendaient des traitements sur le reste. Déprogrammer toutes les autres interventions et tous les autres traitements, c'est impossible. On a des décès également de gens qui sont autre chose pendant ce temps-là. Donc ça, il faut absolument pouvoir garantir la continuité des soins. Alors, il nous a été beaucoup fait le reproche de ne pas parler des moyens qui sont donnés aux hôpitaux, parce qu'on s'est dit à ce moment-là, bah, peut-être parce que notre système de santé n'a plus les moyens de pouvoir traiter en même temps une crise sanitaire et en même temps le reste, c'est-à-dire garantir la continuité des soins. Oui, en effet, ce point n'est pas très apparent dans le rapport. Ça ne nous empêche pas d'y travailler pour la suite et en effet, il faut y travailler parce que il faut que nos hôpitaux, notre système de santé puissent faire face. Ça, c'est évident. Après, bon, on a aussi sur les personnes vulnérables un regard particulier à porter. Sur les tests, il faut qu'on puisse activer très rapidement des plateformes territoriales de tests. Pouvoir lever en cas de crise des financements exceptionnels en urgence pour mettre de l'argent très très vite dans la recherche, des essais, etc. Il a été dit aussi qu'on pouvait impliquer des associations de patients et je pense que c'est une piste très intéressante à travailler. L'instance nationale d'expertise scientifique, moi je fais une remarque, je constate qu'en général elles sont composées de médecins. Or en fait, c'est ce que je vous disais pour les insectes, je pense qu'il faudrait que ce soit des commissions scientifiques plus larges, qui intègrent également d'autres formes de scientifiques, à la fois des pharmaciens, des vétérinaires et des spécialistes de l'environnement en général. Parce que les prochains sujets sanitaires qui peuvent nous arriver vont impliquer tout un tas de spécialistes de l'environnement. Là, si on imagine que le pangolin est muté vers l'homme, on se retrouve bien avec des problèmes environnementaux beaucoup plus vastes que la médecine pure. Il faut vraiment que ce soit des comités scientifiques plus larges. Moi, j'insiste beaucoup aussi parce qu'il faut mettre en lumière pendant cette crise quel a été le rôle des maires au bout du compte, parce qu'il y avait des décisions ministérielles, mais les gens et les habitants, ils sont dans des communes où c'est les maires qui devaient répercuter toutes ces décisions et surtout prendre des décisions et assumer des décisions en bout de chaîne, en faisant pour le mieux pour protéger les habitants. Et ce maillon-là a été, alors autant à certains niveaux ça a été défaillant, autant ce maillon-là, il a parfaitement fonctionné et les maires, y compris en milieu rural, ont vraiment garanti la sécurité des gens. Nous, on est dans un département rural, dans toutes les communes, les maires ont pris ou les équipes municipales ont pris les choses en main. S'il n'y avait pas de masque, on les fabriquait, on trouvait le tissu, on trouvait l'élastique. Tout le monde a été équipé de masques en général gratuitement. Rapidement, ils ont organisé la réouverture des écoles en lien avec les instituteurs, en rassurant tout le monde et en faisant pour le mieux. Sincèrement, il faut vraiment se rendre compte qu'on s'appuie sur cette architecture-là tout le temps en cas de crise. Il faut vraiment replacer les collectivités au centre parce que c'est vraiment eux qui, au fond, terminent par faire le travail. Enfin, en plus des soignants, mais avec une vision macro, c'est vraiment heureusement que cette architecture-là était là, hein.
Alors, de nombreuses mesures vont être prises, de nombreuses mesures ont été prises. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la France est prête à faire face à une potentielle troisième vague qui semble quand même se rapprocher de jour en jour ?
Alors, je n'ai pas eu le temps de lire la dernière note du Conseil scientifique. Alors, la troisième vague, c'est une catastrophe. Alors, le problème, c'est qu'on a des soignants qui sont quand même épuisés. Mmh. On a des soignants qui ont jeté l'éponge. Parce que il y en a qui ont vécu un traumatisme tel qu'ils ont changé de profession. Donc j'aimerais bien que dans le bilan on puisse comptabiliser le nombre de soignants qui se sont reconvertis. On en a perdu plein au passage. Donc là, je sais pas, c'est toujours pareil, ça va reposer sur ces gens-là, puisqu'on n'a pas eu le temps de se réorganiser. Bon, en termes de stock de matériel, ça a l'air d'être mieux, mais moi, on bute toujours sur des soucis concrets, logistiques, pratiques. Là, on parle de la campagne de vaccination. Moi, je suis inquiète, parce que tout repose sur cette histoire de logistique de grand froid. Il y a des pays qui s'y préparent depuis longtemps, parce qu'on sait que ce premier vaccin qui va arriver, c'est à moins 70 ou moins 80 degrés. J'ai l'impression qu'en France, on n'est pas prêt, parce que on va vacciner à partir de fin décembre, mais moi je demande où sont les congélateurs. Voilà. Ou alors on va vacciner qu'à Paris.
Sur cette campagne vaccinale, vous pensez donc que les décisions prises sont trop rapides, qu'on n'a pas assez de recul encore pour pouvoir mener cette campagne ?
Alors écoutez, il y a autant de gens qui disent oui que de gens qui disent non. Au niveau de la population générale, c'est un fait qu'en vaccinant, on est obligé hein, pour stopper l'épidémie. Voilà. Après, le fait que ça se fasse un peu dans l'urgence, c'est incontestable. Mmh. Bon, je me prononce pas parce qu'il y a autant d'avis pour que d'avis contre. Par contre, c'est quand même énorme d'annoncer qu'on lance une politique vaccinale alors que la logistique est pas en place. Voilà, c'est hier j'entendais il y avait le représentant là des médecins généralistes qui disait il faut faire signer aux patients un consentement éclairé. Il dit nous-mêmes on n'a pas les informations. Donc de là à aller dans une semaine convaincre nos patients de se faire vacciner alors que nous-mêmes on n'a pas les éléments. Ça va, voilà. Alors sur le fond, oui, je pense qu'il faut essayer de vacciner largement. Mais par contre, je trouve que la communication, une fois de plus, va beaucoup plus vite que la logistique. C'est pas en place, hein. Voilà, je pense que c'est pas en place.
Et donc, du coup, quand on voit que certains pays, je pense notamment au Royaume-Uni ou aux États-Unis ou encore même au Canada, eux ont commencé à vacciner. Pensez-vous que l'Europe met trop de temps à préparer cette campagne de vaccination et à autoriser le vaccin de Pfizer-BioNTech ?
Je vous dis, on peut bien l'autoriser. On n'est pas prêt en termes de logistique. Alors, c'est à la fois trop rapide et trop lent. Et puis, on n'a pas le choix parce qu'il faut y aller. Mais c'est comme le reste, on n'est pas prêt. Hein. Voilà, on fait pour le mieux. Le but, c'est pas de jeter la pierre, hein, mais c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'on annonce une chose qu'on est incapable de mettre en œuvre là dans les 8 jours. Hein. Oui. Ou alors, c'est de la communication et on va vacciner quelques personnes en région parisienne. Mais ce serait intéressant qu'on le fasse sur l'ensemble du territoire, surtout que là, dans la Nièvre, on est un département qui a vraiment une flambée d'épidémie et voilà, nous, ça pourrait être intéressant de travailler chez nous, mais je vois pas comment.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Madame la Sénatrice.
Bah écoutez, bravo à vous, bravo de vous intéresser, de relayer ces sujets. Vous aviez bien préparé et vos questions étaient très très bien ajusté. J'espère avoir répondu. Et si toutefois, soit vous, soit d'autres personnes avaient besoin d'informations complémentaires, le rapport est disponible intégralement sur le site du Sénat. On clique, on a tout. Voilà. Merci hein, pour votre contribution.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Allez, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.